Il y a le mot « turbulette » ou « gigoteuse » que l'on se met à prononcer alors qu'on ne les utilisait jamais auparavant. Il y a les nombreux checks pour voir si notre enfant respire. Il y a la porte qui grince quand justement on vient voir s'il respire. Il y a leur ronflement quand ils sont enrhumés. Il y a le drap que l'on remet tous les soirs quand ils dorment. Il y a la lumière du couloir que l'on peut enfin éteindre. Bref, vous savez, toutes ces petites choses qui font la vie version parent. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous immiscer dans la tête de Kenza Hendlaoui, une des premières blogueuses françaises qui partage depuis plus de 15 ans son quotidien. De jeune fille à femme, de femme à maman, nous étions aux premières loges pour suivre les grandes étapes de sa vie, les plus heureuses comme les plus tristes. Maman d'une petite Hazel, 3 ans, Kenza a dû apprendre son rôle de mère sans sa propre maman décédée peu de temps avant. Pour elle, une maman, c'est celle qui te prépare à la vie qui arrive. Alors comment a-t-elle continué son chemin sans sa boussole? Comment fait-elle face à la récente séparation avec le père d'Hazel? Comment conjugue-t-elle exposition et intimité? Émotion et adaptation seront les deux mots qui vont guider cet échange. Je m'appelle Carole Tolila, je suis journaliste, maman de 2 enfants et comme Kenza, j'ai le mode parent activé. Bonjour Kenza.
Hello Carole.
Je suis tellement contente de t'avoir dans ce studio. Avec toi, nous allons aborder beaucoup de sujets. Tu as un condensé de vie en 3 ans qui est extraordinaire et qui peut aider beaucoup de mamans et papas qui nous écoutent. En plus, je te connais et j'apprécie personnellement ton franc-parler. Donc, es-tu prête à tout nous dire, Kenza?
Avec plaisir. Et comme tu dis, on se connaît un petit peu déjà, donc ça facilite un peu la communication, quoi.
C'est clair.
Ouais.
Alors déjà, il faut que tu nous décrives un peu la fille que tu es avant de nous parler de la fille que tu as. Tu es l'aînée d'une tribu, d'une famille recomposée.
Tout à fait. Du coup, l'aînée d'une tribu de 5 enfants. Donc recomposée, famille recomposée, parents divorcés, remariés, etc. Et on a de la chance parce qu'on est une famille qui s'entend très très bien. On se considère tous frères et sœurs, on part tous en vacances ensemble. Et bon, ça c'est grâce à mes parents aussi qui ont eu l'intelligence de nous souder. Voilà, tout n'a pas toujours été simple évidemment parce que quand tu vis le divorce de tes parents, il y a forcément des petits conflits à un moment. Mais in fine, ils ont bien bossé pour que ce soit harmonieux, quoi.
Alors voilà, ça c'est le panorama, comme ça on sait d'où tu viens. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, ni toi ni moi on était maman, mais je me souviens très bien, tu m'as parlé de ta mère, tu avais une absolue admiration pour elle, c'était ta meilleure amie, je me souviens vraiment que tu m'aies dit ça. Et j'étais donc très triste pour toi quand tu as annoncé son décès. Est-ce que tu peux nous décrire la relation que vous aviez toutes les deux?
Ouais, bien sûr, moi je m'entendais très très bien avec ma mère. Voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une très très jolie enfance, une très belle adolescence. J'ai eu de la chance d'avoir une mère qui m'a très vite fait confiance et qui m'a toujours envisagée comme un être humain à part entière et pas uniquement comme sa fille. Ce qui fait, je pense, un peu la différence.
Se confiait à toi ?
Elle se confiait à moi, mais je me confiais aussi beaucoup à elle. C'était pas mon amie, hein, clairement pas, mais j'avais confiance en elle comme j'ai confiance en ma meilleure amie. Mais avec le respect qu'on doit à sa mère, quoi. Donc, non, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère, c'était... l'archétype de la femme forte, avec beaucoup d'autorité à des moments, parce que quand t'es une femme seule avec 3 enfants, t'es obligée d'en avoir, mais énormément d'amour et de tendresse à donner, en fait. La balance toujours parfaite, à mon sens. Et peut-être que je sacralise ça aussi maintenant parce qu'elle n'est plus là et que c'est souvent comme ça, et qu'à des moments, forcément, j'en ai voulu quand j'étais plus jeune, parce qu'elle a été un peu plus stricte avec moi qu'avec mes frères. Mais j'étais l'aînée.
Et en plus, t'es la seule fille. Donc vous avez une relation encore plus fusionnelle, je
pense. Très fusionnelle, ouais. Vraiment. Je pense qu'on s'admirait mutuellement. C'est bizarre de dire ça.
Mais si, c'est vrai, je pense.
Une grande majorité des filles admirent leur maman. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, moi, ça l'était. Mais je pense que ma mère m'admirait aussi d'une certaine façon.
Moi, je te dis, je suis pareil avec ma fille, je suis pareil avec ma mère, donc je comprends tout à fait ce que tu dis.
Ben voilà.
Alors, on va rentrer dans le passage un peu difficile. Tu as 30 ans, tu apprends qu'elle a un cancer. Malheureusement, elle va être emportée par ce cancer. Tu es dévastée.
Ouais.
Et 6 mois après, tu décides de faire un enfant.
Mais je décide pas. Cadeau du bon Dieu.
Cadeau du bon Dieu, c'est vrai? Ah, moi, je pensais que tu avais décidé.
On avait envie, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, moi. Ça faisait longtemps, des années que j'étais en couple et qu'on en avait déjà parlé, que ma mère me l'évoquait souvent, même étant malade. Mais je me sentais pas du tout prête à pouvoir accueillir un enfant dans mon ventre ou dans ma vie temps que le dossier de ma mère n'était pas résolu, parce qu'on est passé par une longue phase de maladie, de fausse joie, de déception, enfin voilà, tout ce qui entoure un cancer, quoi. Donc, je ne me sentais pas de faire un enfant maintenant, mais c'est vrai que quand elle est partie, au mois de mai, et on a mis en place cette discussion avec Mathieu, le papa de ma fille, pendant les vacances, donc peut-être 3 mois après. Mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Tu sais, t'entends tellement d'histoires, t'as l'impression que c'est tellement difficile, parce qu'on a beaucoup libéré la parole autour de ça, que tu sais pas si toi tu peux y arriver ou pas. Et en fait, ça arrivait très très vite. Donc quand je dis cadeau du bon Dieu, c'est que c'était la surprise. Et en même temps, je le voulais, mais je pensais pas que ça arriverait dès à présent, quoi.
Et quand t'en parlais avec ta mère, elle te disait vraiment, il faut que tu deviennes maman. Elle essayait de se projeter pour toi, en fait. Elle essayait de te donner des conseils pour plus tard, c'est
oui,
ça?
Oui, mais elle en voulait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle, elle rêvait d'être grand-mère. Alors, elle ne me mettait pas la pression parce que c'était fait avec beaucoup de...
De tact.
Ouais, de tact, mais elle me disait, oh là là, parce qu'on était censé s'installer aux États-Unis, mais elle me disait, oh là là, dès que tu es installée aux États-Unis, que tu fais un bébé, moi je débarque, je prends mes valises, je m'occupe de ton bébé. Et moi, je me souviens, je la rejetais un peu, j'étais là, enfin, maman, le jour où j'ai un bébé, machin, j'ai pas forcément envie de t'avoir H24 dans mes pattes, tu vois. Et en fait, ce qui est pas du tout vrai, parce qu'en fin de compte, j'aurais rêvé de l'avoir dans mes pattes H24. C'est vrai qu'on parlait souvent de la vie qu'on allait pouvoir mener dès que j'allais avoir un bébé, parce que moi-même, j'ai une grand-mère dont j'étais très, très proche. Ma grand-mère passait beaucoup de temps à la maison. Ma grand-mère était française, mais habitait au Maroc et était très souvent à la maison. À Paris, parce que son pâté en croûte lui manquait, quoi, concrètement. Voilà, puis on est une famille franco-marocaine, donc c'est culturel, quoi.
Il y a de la joie, il y a du monde, il faut que la maison
ouais.
vive.
Puis en fait, il y a de la transmission. Il y a beaucoup de transmission, et quand tu accueilles un bébé en temps normal, dans cette culture méditerranéenne, tu es entouré des femmes de ta famille.
C'est tout le village qui élève l'enfant.
C'est un peu ça, tu vois. Donc bon, moi, ça n'a pas été le village du tout, mais dans l'idée, c'était ça.
Est-ce que, je sais que tu dis que ce n'est pas un bébé pansement. Est-ce que c'est un bébé boué, finalement, Hazel, par rapport à ce qui t'est arrivé?
Ben, je sais pas, non. J'ai même pas envie de la qualifier bébé boué, pansement, médicament. C'est non, parce
elle
que
t'a
tu sais
pas
quoi?
aidé dans ton deuil.
Je pense pas, au contraire.
Ah ouais?
C'est pas contre elle, hein, parce que je regrette absolument pas et que je ne signe plus jamais pour ma vie d'avant, tellement je l'aime. Mais au contraire, ça aurait été peut-être plus simple de faire un bébé beaucoup plus tard, finalement. Parce que là, c'était un peu, c'était rapproché quand même, hein.
Ouais, t'as
C'est-à-dire
dû
que
mener de front ta grossesse et le deuil.
Mais en fait, tu penses que tu gères ton deuil, et en fin de compte, quand ton bébé se niche dans ton ventre et que tu as ces 9 mois qui sont en fait vraiment nécessaires à la préparation de ta future vie, parce que 9 mois, ok, ton bébé se développe, mais en fin de compte, ces 9 mois servent aussi à la maman et au papa, tu vois, pour se préparer, et physiologiquement, et émotionnellement, etc. Ça aurait été peut-être plus simple que ma mère ne soit pas partie 6 mois avant, parce que là, tu te reprends tout dans la figure, quoi. C'est juste que toutes les premières fois qui arrivent, une fois que tu perds un parent, bah c'est un nouveau challenge. Le premier anniversaire, une première naissance, un premier voyage sans tes parents, et même tes premiers chagrins sans pouvoir appeler ta mère. Parce que enfin, ta mère, initialement, c'est elle qui te soigne, quoi, tu vois, quand tu vas pas bien. C'est très bizarre. Mais, donc non, je dirais pas que c'est un bébé boué. Je suis assez spirituelle et je pense que tout arrive pour quelque chose, et que je m'amuse à dire que voilà, ma mère me l'a envoyé, quoi.
Donc tu es toujours connecté à elle.
Ouais, j'ai l'impression.
Il y a un peu d'elle dans Hazel?
Il y a peut-être pas encore beaucoup d'elle dans l'attitude, parce qu'Hazel, bon, elle a 3 ans et que, tu vois, elle passe par différentes phases, etc. Mais je pense qu'il y a, enfin, après, bon, on n'y croit, on n'y croit pas, je pense qu'il y a beaucoup d'amour de la part de ma mère vis-à-vis d'Hazel, tu vois, beaucoup de douceur. Et moi, je suis sûre qu'Hazel est connectée à ma mère d'une certaine façon, ou en tout cas que ma mère se connecte à Hazel. C'est parfois, ma fille me dit des trucs un peu lunaires, tu vois, elle te parle de mamie, alors que mamie n'a jamais été véritablement évoquée, tu vois. C'est des choses comme ça. Bon, après, je suis sur mon petit nuage et peut-être que ça m'arrange d'y croire, tu vois.
Ouais, je te comprends. Ça fait du bien. Après, ça serre un peu le cœur, mais ça fait beaucoup de bien aussi.
Oh ouais, ça fait du bien. Moi, ça me rassure. Au contraire, moi, je veux surtout que ma fille connaisse ma mère à travers nos histoires, nos anecdotes, tu vois, qu'elle comprenne qui c'est. C'est hyper important.
Alors, on va parler aussi de Mathieu, parce que Mathieu, dans l'histoire, il a dû vivre tout ça.
Ouais.
Comment il a réagi quand tu as commencé à parler bébé?
Mathieu, lui, c'est le premier à avoir parlé bébé en réalité, parce que Mathieu, depuis qu'il a 15 ans, rêve d'avoir un enfant. Donc Mathieu, je pense que si je lui avais dit au bout de 2 ans, on fait un bébé, il aurait été OK, quoi. Donc quand on a commencé à en parler un peu plus concrètement, en fait, il n'y a même pas eu de vraie discussion et de oui ou de non, c'était genre ça va de soi. Et puis ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on a voyagé partout ensemble, on a vécu cette épreuve ensemble, et c'était tout à fait naturel que ça arrive ensuite, quoi.
Alors justement, pendant cette grossesse, tu as eu beaucoup de questions.
Alors, ce qui a été dur pour moi, c'est le premier trimestre et le dernier trimestre. Pas le second trimestre, bizarrement. Bon, déjà, tu vas bien, le second trimestre, en général, t'es en forme.
T'es un peu plus boosté,
Ouais, voilà. Mais après, ça va, j'ai eu une très jolie grossesse. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de maux. Les seuls mots que j'avais, c'était des mots. Enfin, j'étais triste à des moments vraiment profondément, viscéralement triste. Et je m'en voulais même. Je m'excusais auprès de ma fille d'avoir des larmes qui sortaient parce que, enfin, je me disais merde, elle va sentir que ça va pas et je veux pas que, voilà, dans son inconscient de petit fœtus, qu'elle s'imagine que ça. Et genre, je lui parlais en lui disant, c'est pas toi, c'est pas toi. Je suis triste, j'ai pas ma mère. Et enfin, bon, j'essayais de lui expliquer. Mais c'est vrai que j'avais ce truc-là qui était assez difficile, c'est que la seule personne vers qui j'avais envie de me tourner. En l'occurrence, le premier trimestre et le dernier trimestre. Le premier, celui de la découverte. Le dernier, celui où tu t'approches du,
bah,
du
de
moment
l'échéance.
Où, ouais, tu vois, où tu vas te retrouver avec un être humain entre les mains.
Ouais.
Tu as envie de parler à ta maman, tu as envie d'être rassurée, tu as envie de savoir comment faire ça, ça, ça. Et tu as beaucoup de questions qui te viennent à l'esprit et je ne pouvais pas lui poser. Et j'avais beaucoup de femmes autour de moi. J'avais la maman de Mathieu, j'avais l'épouse de mon père, qui est ma belle-mère, qui est comme une maman pour moi depuis plus de 20 ans. J'avais mes meilleures amies qui ont déjà été maman. Et c'est pas à ces personnes-là que j'avais envie de poser les questions.
Tu t'es sentie seule alors?
Bah, à des moments, oui. Et c'était aussi un peu bizarre parce que j'étais pas seule pourtant. J'ai été entourée. Et les gens venaient vers moi, mais c'est dans ma tête, c'était « Non, vous n'êtes pas à la hauteur de ma mère, en fait. » Et un jour, Diego m'a dit un truc très juste. Donc Diego, mon frère, m'a dit « En fait, dès que tu as une question à poser, pose-la à voix haute, pose-la à maman, comme si elle était face à toi. Et la première intuition qui te vient, bah, c'est la bonne réponse. » Et en fait, dès lors où il a dit ça, je sais pas, il a désacralisé un peu le truc. Et j'ai fonctionné comme ça. Et en fait, systématiquement, j'avais la bonne solution, la bonne réponse. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai voulu y croire ou est-ce que véritablement ma mère était connectée ou est-ce que en fait on est maman et il faut pas vraiment douter de soi? J'en sais rien, mais ça a fonctionné.
Ça a marché, donc essayez si vous êtes dans le même cas.
Franchement, ouais.
Ce qui est mignon aussi, c'est par rapport à ta place dans la famille. Mmh. Tu aimes bien finalement rassembler les gens et on le voit aussi beaucoup dans ton profil.
Ouais.
Donc finalement, avec ce bébé, est-ce que tu n'as pas apporté de la joie parce que vous étiez tous en deuil, vous avez perdu une personne très importante?
Peut-être inconsciemment, j'ai voulu nous réunir autour d'une bonne nouvelle, mais ce sera arrivé tôt ou tard, quoi qu'il arrive, parce qu'avec Mathieu, bon, bah, c'était une évidence pour nous, mais c'est ce qui s'est produit en tout cas, et ça nous a fait du bien, clairement. Hazel, bah, c'est normal, c'est la première petite fille de la famille, c'est l'idole, tu vois. Mon père, ma belle-mère, ils sont géniaux, les parents de Mathieu sont géniaux, enfin, même mon frère Diego, qui est tellement occupé dans sa vie, dans son travail, etc., il est fou d'amour pour elle. Enfin, tu vois, t'as des personnalités qui se révèlent aussi autour d'un enfant. Et c'est hyper intéressant. Voilà, donc non, elle nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Ça n'a pas toujours été simple, forcément, les premières semaines, les premiers mois. Parce que, voilà, moi, j'étais un peu perdue aussi. Mais
qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur dans ta maternité?
De rentrer chez moi seule. Sans ma mère. Vraiment. Ça, c'était le plus dur. J'ai jamais imaginé ce cas de figure. Tu rentres chez toi et c'est une jolie scène, tu vois. T'as ton bébé dans son petit panier, ton mec. Et j'étais contente parce que moi, j'ai accouché en période de confinement, machin. Donc, j'étais restée 5 jours à l'hôpital parce que j'allaitais, etc. À la fin, j'en pouvais plus. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Et je nous revois arriver dans cet appartement, tu vois. Dire, OK, c'est maintenant. Sauf que moi, j'aurais rêvé qu'il y ait ma mère qui m'attende, en fait, dans mon appartement. Mais c'était juste dur de pas pouvoir, je sais pas, me tourner vers ma mère pour encore une fois poser les questions.
Bien sûr.
Moi, ça m'a fait peur, un nourrisson.
Ça se comprend. Déjà, le premier, en temps normal, c'est compliqué. Mais, alors là,
mais je ne pensais pas que ça me serait arrivé parce que je suis l'aînée d'une fratrie. Donc, moi, j'en ai vu des nourrissons, tu vois.
Oui,
j'en ai vu.
T'es fonceuse, donc normalement, tu maîtrises les situations.
Ouais, je maîtrise et je n'ai pas peur des enfants. Mais là, j'étais. Enfin, c'est Mathieu vraiment qui a très, très bien géré les tout premiers jours, quoi. Au bout de 2 semaines, moi, j'ai repris le boulot et j'ai fait les choses un peu trop rapidement, à mon sens. Et je m'en rends compte seulement maintenant. J'ai voulu reprendre très vite le boulot parce qu'on sortait d'une période de confinement, donc d'ennui. J'en avais marre d'être en inactivité, mais je voulais aussi reprendre parce que j'avais aussi ce FOMO de pas en être et de pas, tu vois.
Bien sûr.
Et en fin de compte, ça a été une bêtise parce que je me suis vraiment fatiguée à allaiter, à reprendre le travail. Et j'ai fait appel à une puéricultrice de nuit dans un premier temps pour nous aider quelques nuits quand j'avais un tournage le lendemain, etc. Et en fait, Vanessa, cette personne est entrée dans ma vie et n'en est jamais sortie. C'est-à-dire que j'ai trouvé en fait... une personne vers qui me tourner, vers qui m'appuyer, une femme en l'occurrence, qui n'était pas ma mère, qui n'était pas quelqu'un de ma famille, mais qui était quelqu'un de diplômé, c'est très bête. Hein.
Et voilà, ça lui a donné la caution.
Ouais, c'était ma référente en fait, Vanessa. Tu vois, et c'est là où vraiment, genre, ma maternité est devenue plus simple. Dès lors où j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagnée.
Et aujourd'hui, tu poses encore des questions à ta maman à haute voix ou pas?
Non, ça va aujourd'hui. Je lui pose des questions, mais tout le temps. Mais moi, je parle à ma mère tout le temps en même temps. Donc, avec Hazel, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'elle a 3 ans, qu'elle parle, qu'elle marche, tu vois, que voilà, elle a un bobo, je sais où elle a mal. Enfin, voilà. Non, non, là, j'adore. Je reproduis typiquement la relation mère-fille que j'avais avec ma mère, tu vois.
Ah justement, qu'est-ce que tu aimerais reproduire avec ta fille? Quelque chose que ta mère t'a enseigné?
Des moments juste elle et moi. C'est hyper important et c'est un truc que je retiens avec ma mère. Ma mère était quelqu'un qui avait deux sociétés, beaucoup de salariés, une vie sociale très très dense. On est une grosse famille, etc. Mais elle arrivait toujours à trouver des moments pour chacun d'entre nous, chacun des enfants. Je ne sais pas comment elle faisait, franchement, genre, elle n'avait pas de temps dans sa vie, mais alors pour nous, il y en avait tout le temps. Du coup, je me suis toujours sentie, genre,
Aimer.
ouais, aimée, mais plus qu'aimée, en fait, considérée. Voilà, et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi et que j'ai envie de reproduire avec Hazel et que je reproduis. Typiquement, Hazel, elle a 3 ans, je vais me faire des bouffes avec elle. Tu vois, je
Je
la
sais que tu
prends.
fais des brunchs.
Ouais, j'adore aller bruncher avec ma fille. Et ça, c'est un truc que j'ai développé quand j'habitais seule à l'étranger avec elle. C'est une bonne habitude qu'on a gardée. Et les petits brunchs, tu vois, c'est trop sympa.
Trop sympa. Et
Ouais.
qu'est-ce qu'il y a de différent que tu voudrais faire? C'est-à-dire quelque chose que tu as moins aimé? Est-ce que tu arrives encore à être critique avec ce que t'as donné
Oh,
ta
bien
mère?
sûr. Ah oui, bien sûr. Attends, ma mère, je l'aime d'amour et je l'adore sur plein de trucs, mais ça reste un être humain avec ses failles, quoi, tu vois. Bah, moi, le truc que je ne reproduis pas et que j'essaierai de ne pas reproduire, c'est peut-être, enfin voilà, les conflits que je peux avoir parfois avec son papa, ne pas la mettre au courant de ça, quoi. Moi, j'ai été mêlée à des histoires malgré elle, malgré mon père, malgré moi, et j'ai
Des
vu
histoires
des,
d'adultes.
bah ouais, les histoires
Ils se
d'adultes.
sont séparés. T'avais quel âge?
J'avais 4 ou 5 ans.
D'accord, donc t'as
Ouais.
pas trop de souvenirs avec eux.
Oh non, j'ai un souvenir, littéralement un souvenir en tête d'un petit déjeuner un matin en famille, mais bon, j'étais toute petite. Mais ouais, je sais qu'avec Mathieu, on est très vigilant là-dessus, quoi.
T'as compris leur séparation ou tu leur en as voulu?
Bah, je pense que j'ai compris, mais qu'inconsciemment, tu leur en veux toujours un peu.
Toujours.
Aujourd'hui, ça va. Mais à des moments, quand tu grandis, quand t'es ado, et moi, j'ai été forgée d'une certaine façon, puisque j'ai grandi avec une maman seule, très, 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 trop indépendante, et qui m'a formatée en quelque sorte à
Pour être
l'indépendance.
indépendante, ouais.
Trop.
C'est dur de rentrer dans ta vie pour un homme, c'est ça?
Aujourd'hui, ça n'allait plus, tu vois, j'ai laissé de la place à quelqu'un, mais mes relations n'ont jamais été très simples, mes
D'accord.
relations amoureuses. J'ai toujours été très gentille, mais très dure, très rigide, très dans le contrôle, tu vois. Et il fallait pas déborder d'une certaine façon. J'en veux pas du tout à ma mère, mais je sais que c'est parce que j'ai eu l'exemple de ma mère qui manageait sa vie à merveille, sans que rien ne dépasse.
Et elle te disait, faut pas faire confiance aux hommes?
Pas comme ça. Elle me disait, sois indépendante, ne compte sur personne. Bon, je sais plus précisément le type de discours qu'elle avait, mais moi, c'est mes copines qui m'en parlent. Elles nous
Ouais.
chopaient souvent dans la cuisine. Tu vois, quand t'es ado, t'es là, t'es avec tes copines, tu te fais ton goûter, t'as ta mère qui arrive. Alors, les amoureux, trucs, machin, et boum, matraquage, quoi, tu vois. C'était, non, non, sois indépendante, t'as besoin de personne. Mais en fait, à force de l'entendre, bah, tu te rends compte que t'as pas. Enfin, t'as besoin de personne. Mais moi, je me rends compte aujourd'hui, et c'est seulement à 36 ans, post-rupture avec le père de ma fille, que je me rends compte que, bah en fait, potentiellement, j'ai peut-être besoin de quelqu'un. En fait, ça
D'accord.
peut être cool aussi d'avoir une épaule. Tu vois, c'est bien d'être indépendante, hein, mais il faut pouvoir s'adoucir un peu, laisser un peu de place. Je laissais pas de place. Et j'en ai toujours voulu au mec avec qui j'étais aussi, parce que je me disais, putain, mais ils prennent pas le lead. Genre, j'en ai marre d'être le bonhomme de, tu vois, du couple. Et enfin, le bonhomme, pas sur tous les points, hein, pas du tout. Mathieu est un bonhomme, enfin, tu vois. Mais il faut laisser un peu de place.
Alors justement, parlons de Mathieu, qui a
Ouais.
réussi à prendre quand même de la place dans ta vie. Comment tu l'as rencontré?
Bah, Mathieu, je l'ai rencontré à l'enterrement d'un ami qu'on a en commun, qui était son meilleur ami et un très bon ami à moi. Et c'est quelqu'un que je connaissais de loin, que je voyais de loin. Tu sais, publications sur les réseaux et compagnie. Et mon pote, en l'occurrence Alassane, il s'appelait comme ça, était quelqu'un d'assez possessif, qui a jamais voulu nous présenter. Et il disait tout le temps, faut que je te présente mon pote Mathieu, faut que je te présente un pote Kenza, faut que je te présente. Bref, au final, on ne
Mais
s'est
il
jamais
cloisonnait.
rencontrés. Il cloisonnait en quelque sorte, il adorait avoir ses copines filles que pour lui. Et c'était vraiment ça. Et bah, quand j'ai aperçu Mathieu le jour des funérailles d'Alassane, je l'ai reconnu, je suis allée le voir et j'ai été tellement maladroite parce que je lui ai fait « Alors ça va ?» Le truc
Mais
débile
c'est
quoi, tu vois,
ouais.
alors que c'est son meilleur ami. Et il m'a fait « Bah non, ça va pas. » Et je fais je me suis dit « Merde, je suis vraiment conne. » Puis on a gardé contact par la suite et on est restés amis pendant pas mal de temps, Mathieu et moi, avant de se mettre ensemble.
Est-ce qu'il te plaisait physiquement? Est-ce que tu l'avais repéré du coup?
Initialement, on ne se plaît pas physiquement, ni lui ni moi.
Ah
C'est-à-dire que
ouais.
Mathieu aime les grandes blondes, très grandes, très fines. Je ne suis pas une grande blonde, très grande, très fine.
Et
Je
toi,
suis
ton type de mec?
bah, pas Mathieu, enfin, grand, un peu plus baraque. Mais il m'a tout de suite séduite, quoi. Et on s'est tout de suite séduit parce qu'en fait, il y a un moment où on s'est quand même trouvé beau l'un et l'autre,
Et
tu vois.
quand est-ce que vous avez basculé de l'amitié à l'amour?
Bah, c'est lui, en fait, qui a mis le point dessus, quoi. C'est lui qui a mis le point dessus parce que moi, je ne m'en rendais pas compte où je me voyais la face. On est resté genre pendant pas mal de temps, pas mal de semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me souviens plus exactement des termes. Il me ramène en voiture en bas de chez moi et il me dit, mais en fait, on n'est pas potes. J'étais là, ah si, si, on est potes. Et je me souviens que je suis remontée chez moi.
Ouais.
Je me suis dit, putain, il a raison, en fait, on n'est pas potes. Et c'est pas, je sais plus ce qui s'est passé précisément.
Tu m'as pas fait la scène de film, là. Je redescends
ouais,
dans les escaliers,
non, je l'ai
bababam.
appelé. Je lui ai dit, en fait, t'as raison, on n'est pas potes. Et l'ambiguïté s'est installée à ce moment où il a mis lui les pieds dans le plat.
D'accord. Et
Ouais.
très vite, vous avez décidé de partir à l'étranger, c'est ça?
Pas très vite, on est. Non, au bout de 3 ans.
Pourquoi vous aviez envie de partir à l'étranger tous les deux?
En fait, quand j'ai rencontré Mathieu, il habitait à Los Angeles. J'y étais allée plusieurs fois et je ne comprenais pas l'intérêt de cette ville. Et lui me vendait le truc en mode putain, LA, c'est génial, t'adorerais, je comprends pas que t'aimes pas. Donc on est parti en vacances 2 fois là-bas. Et c'est vrai que le Los Angeles qui m'a fait découvrir était très différent de celui que je connaissais. Et à tel point que je me suis dit, en fait, Los Angeles avec lui, ouais, trop cool. On est parti s'installer là-bas en se disant, on va partir 3 mois, on va faire un test.
Ok.
On est parti 3 mois, donc ça a été génial, on s'est éclaté. Et à l'issue de ces 3 mois, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, on a commencé à faire toutes les démarches de visa pour s'y installer. Et puis, ma mère était déjà malade. Sauf que ça a pris de l'ampleur et tous les projets ont été
Donc là,
annulés,
tu t'es
quoi.
dit, il faut pas que je parte,
Non,
je
c'était pas le
reste.
moment. Fallait que je sois avec ma mère.
Et quand ta mère est partie, tu as quand même eu envie de partir à Dubaï. Pourquoi ce choix?
Ouais. Je voulais vraiment quitter Paris. J'en pouvais plus, j'ai tout fait à Paris. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai passé genre 33 ans de ma vie à Paris. Et moi, j'avais ma mère qui habitait à quelques mètres de chez moi et j'adorais la vie
Ouais.
que je menais à Paris tant que j'avais ma mère à proximité. Et en fait, je m'étais tellement projetée aux États-Unis, j'ai tellement apprécié la vie d'expat, je voulais encore cette vie-là. Et bon, Hazel s'est nichée dans mon ventre, on s'est retrouvés confinés, j'accouche, on réenvisage les États-Unis parce que notre visa était là, quoi, prêt à partir. Et en fait, on voit qu'il y a une inflation horrible, on voit que c'est le bordel là-bas et on se dit, mais non, on va pas aller. Tu vois, 12 heures de vol, 9 heures de décalage horaire avec un bébé, avec l'inflation, avec la délinquance. Et donc, on n'est pas parti. Mais par contre, mon frère Diego montait la filiale de son agence à Dubaï à ce moment-là. Et on s'est dit, go à Dubaï une semaine, la petite à 3 mois. On est parti une semaine là-bas, donc un peu pour tâter le terrain. C'était pas ma ville de rêve du tout parce que je détestais Dubaï. J'étais allée 3 fois pour le boulot. Je comprenais pas l'intérêt de cette ville. Et en fait, bon, on y est allé une semaine et finalement, je me suis dit, c'est pas mal, il fait beau, il fait chaud. J'ai mon frère qui est à proximité. Les loyers étaient très peu chers à l'époque à Dubaï. Et avec ce que je payais à Paris, je pouvais m'offrir une maison de 4 ou 5 chambres, ce qui est arrivé d'ailleurs. Tout était parfait, la sécurité, tout. Et beaucoup de douceur à Dubaï, qu'on le veuille ou non, tu vois. T'as le Dubaï qu'on voit dans les médias, les tours un peu dégueux et tout, mais t'as pas que ce Dubaï. Dubaï, t'as aussi beaucoup de cultures qui se mélangent. Enfin, nous, on habitait, voilà, dans une maison en bord de mer. On a eu le bon Dubaï
Et
et...
là, ça t'a aidé à être maman, en
Ouais,
fait,
là,
finalement.
vraiment, là, c'est là où je me suis...
Tu t'es apaisée.
Ouais, parce qu'en fait, j'étais à cran tout le temps,
Ouais.
entre le deuil de ma mère, entre Paris qui me tendait, entre, enfin, même ton couple qui bat un peu de l'aile parce que bah, tu dors pas assez, que tu te mets sur la gueule tout le temps.
Donc déjà, en fait, à ce moment-là.
Ouais.
Tu dirais quand t'as eu Hazel, vraiment, ça allait pas avec Mathieu?
En fait, ça allait, mais c'est... Je sais même pas, en fait. Là, je suis en train de
T'arrives même
réfléchir. Ouais, je sais
t'arrives
plus.
plus à voir la
Non, mais je pense
chronologie.
qu'en réalité, il y avait peut-être des bases qui n'étaient pas assez solides, tu vois. Mais
Ouais.
il y a eu trop de fragilité. On s'est pris trop de coups. Enfin, c'est... On a traversé trop de trucs en trop peu de temps. Et je dis pas que c'est ma mère qui a fait qu'on se soit séparés. Il y avait des failles. Mathieu et moi, de base, on s'est rencontrés jeunes. On
Ouais.
a évolué ensemble. Sauf qu'au bout d'un moment, ses besoins, comme les miens, étaient très, très différents. Et je sais même pas comment l'expliquer. C'est juste qu'on aspirait à deux choses très différentes. Et puis même, Mathieu a détesté Dubaï, alors que moi, j'adorais que je m'y épanouissais.
Quand vous avez parlé de séparation, vous étiez
Ouais.
d'accord tous les deux.
Ouais.
Toi, t'as mis du temps à accepter qu'il fallait se
Non.
séparer du père de ta fille ou pas?
Pas du tout.
Ah ouais?
Bah non, parce qu'en fait, ça traînait un peu en longueur. On s'était déjà pris la tête quelques mois avant la véritable séparation. On l'avait déjà évoqué. On a essayé de tout faire pour que ça fonctionne, de trouver des solutions, communiquer, etc. Mais je crois en fait qu'on était juste plus amoureux.
Et tu dis que c'est une libération
Bah,
pour
je pense
toi.
que pour nous deux, ça a été une libération. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, t'as envie de faire comme la société veut que tu fasses, tu vois. Tu viens d'avoir un jeune enfant, vas-y, accroche-toi. Et moi, je suis comme ça. Hein. Je vais jusqu'au bout des choses. Mais bon, non, là, je commençais à. Tu vois, je somatisais, j'avais de l'herpès sur l'œil, j'avais de l'eczéma partout. Enfin, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, tu vois, c'est ton corps qui parle, quoi. C'était pas Mathieu, hein. Ce Mathieu, il était pas méchant en soi. C'était nous deux, c'était nos
Ça marchait
énergies,
plus,
ça ne
quoi.
marchait plus. On n'était plus fait pour vivre ensemble. On n'était plus du tout alignés. On est très alignés, par contre, dans notre parentalité. Mais en tant que couple, on ne l'était plus.
D'accord, ça c'est intéressant.
On est issus de parents divorcés, je pense qu'on n'a pas envie de reproduire la même chose. En plus, on a énormément d'affection l'un pour l'autre. Mathieu, bien sûr, je l'en veux pour des trucs, il m'en veut pour des trucs. Mais on a une relation qui est saine et c'est notre fille avant tout. Et même lorsqu'on se disputait au sein de notre propre foyer parfois pour des trucs débiles, parce que la personne te revient plus, tout ce qui concernait Hazel, on a toujours été hyper alignés. On s'est séparés pendant les vacances d'été à Paris. Et on rentre ensuite tous à Dubaï, alors qu'on n'était plus ensemble. Mathieu me dit, moi, je vais me prendre un petit appart à côté, machin. On commence à visiter les apparts pour lui, etc. Moi, je gardais la maison avec Hazel et tout. Et en fait, in fine, Mathieu m'a dit, en fait, non, là, je ne suis pas bien là, avec ce que je suis en train de faire. Il faut que je rentre à Paris.
Là, c'est un problème, du coup.
Bah, là, ça devient problématique parce qu'on a un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait? On le coupe en deux, tu vois. Et en fait...
Lui, il se disait, je veux la voir une semaine sur deux, tout de suite.
Non,
il t'a
pas
dit
du tout.
Qu'il fallait que toi aussi, tu rentres à Paris.
Non,
ou pas?
Il ne m'a pas du tout mis la pression. Il m'a dit, moi, je sais que tu es heureuse ici. Je sais à quel point, genre, c'est beaucoup d'investissement d'emménager à l'étranger, aussi bien financier qu'émotionnel. Je m'étais créé une vraie bande. J'ai fait 2 ans. Il m'a fallu véritablement 1 an pour trouver mes marques, mes repères, les lieux que j'aime, les gens que j'aime, ma bande, mes habitudes, mes rites, enfin, tout. Il m'a dit, moi, il n'y a pas de problème. Tu veux rester avec la petite, tu restes. Je sais que c'est plus avantageux pour elle, même d'être là-bas, pour s'épanouir. Mais je suis restée du coup avec Hazel. Il est reparti à Paris. Et là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis prouvée, tu vois, vraiment que...
Tu pouvais gérer.
Ah ouais, tout prenait sens, tu vois. C'est-à-dire que j'avais besoin, je pense, de me retrouver seule avec ma fille, de véritablement envisager ma maternité comme ça, de me rendre compte de ce que c'est. Je savais ce que c'était que d'être maman, hein. Mais quand t'es deux, c'est différent.
Bah, forcément, t'as le jugement de l'autre.
T'as le jugement de l'autre, faut faire des compromis. Puis là, être maman seule dans un pays étranger de culture arabe, tu vois, pas occidentale, hein. C'est un putain de challenge, hein. Mais c'était génial.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rentrer à Paris?
Dès lors où Mathieu est parti, j'étais un peu... OK, Paris me manque, mes amis me manquent, ma famille me manque, je serais peut-être mieux là-bas, etc. Et d'un autre côté, j'étais là, mais en même temps, je vis la vie de rêve. Initialement, avec Mathieu, on s'était dit, Mathieu fait des allers-retours, Paris-Dubaï, Dubaï-Paris, et puis moi, je vais faire des allers-retours avec la petite. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça, parce que la petite, à ce moment-là, elle a 2 ans. Et qu'à 2 ans, t'as besoin, enfin nous, c'est ce qu'on se dit, d'avoir ton papa et ta maman constamment. Elle réclamait beaucoup son père, en fait.
D'accord.
Donc à un moment, FaceTime, c'est bien, mais du haut de ses 2 ans, si elle réclame son père, c'est qu'elle a besoin de le voir, tu vois. Donc à un moment, je me suis dit, OK, bah, rends-toi à l'évidence. En fait, ta fille est beaucoup trop petite pour manquer d'un de ses parents. Faut pas qu'il y ait de faille. Peut-être plus tard, tu vois. Peut-être plus tard, j'y retournerai parce que Dubaï, pour moi, c'est pas une histoire qui est terminée. On verra bien de quoi il fait demain, mais pour l'instant, elle a 3 ans, elle vient de rentrer à l'école. Elle a son papa, sa maman, sa grand-mère. Enfin, voilà, il faut qu'elle grandisse comme ça.
Donc c'est une semaine sur deux.
Ouais.
Comment tu vis la séparation?
Oh, je la vis bien. Je la vis hyper bien. Mathieu aussi, on s'entend hyper bien. Après, on est très arrangeants l'un avec l'autre. Si j'ai une obligation, bah voilà, il peut s'arranger. Enfin, typiquement, Mathieu, il est en mesure de débarquer chez moi, me garder la petite quand j'ai un dîner, tu vois. Et Hazel ne souffre pas du tout, quoi. Enfin, pour elle, elle a chez papa, chez maman. Papa vient souvent chez maman. Et tu vois, typiquement, on fait son annive dimanche. Son annive, il y a les grands-parents d'un côté, les grands-parents de l'autre. On reste une famille. Quoi qu'il, on reste une famille, à la vie, à la mort. Même si on n'est plus ensemble, même si jamais on se remettra ensemble.
Et voilà. Même s'il y a des nouveaux arrivants, parce que si jamais il y a une belle-mère, par exemple, comment tu vas le vivre, tu penses?
Moi, la belle-mère, je l'accepte sans souci, tant qu'elle est cool avec ma fille. Qu'elle n'empêche pas Mathieu d'avoir des rapports avec moi, quoi. Mais je sais qu'on est suffisamment intelligent pour choisir les bonnes personnes. Vraiment, on a eu des belles-mères, des beaux-pères, on sait.
D'accord.
Ouais.
Et alors, est-ce que tu as un nouvel amoureux dans
ta
vie?
Oui, moi j'ai quelqu'un et Mathieu le connaît en plus.
Ah ouais?
Ouais, il l'adore.
Il l'a adopté.
Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Il est validé.
Il est validé par Mathieu. Donc...
Et est-ce qu'il est validé par ta fille?
Elle l'a rencontré il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, elle ne sait pas que c'est mon amoureux, quoi.
Et tu lui laisses une grande place à ce nouvel amoureux ou pas?
Une grande place dans ma vie de maman, ma vie tout court.
Dans ta vie de tout court, j'ai envie de dire.
Ouais, il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Genre, mes potes le connaissent, une partie de ma famille le connaît. Maintenant, on mène nos vies, quoi. Moi, j'ai ma vie de maman, lui, il a sa vie aussi. Enfin, c'est très différent de rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là, post-séparation, avec un enfant, je trouve, tu vois.
Il a des enfants, lui?
Non, pas du tout. Il est plus jeune que moi, il n'a
il
pas
a
d'enfant.
Quel âge?
Ah, je ne vais pas dire ça, parce que là, après, si je balance trop de doses, les petites abonnées vont partir à la recherche de la personne en question.
Et t'es amoureuse?
Ouais.
Ah.
Ouais, je suis amoureuse.
Et est-ce que tu dirais que t'es plus épanouie depuis que t'es une maman? Justement, est-ce que ça t'a donné de la force d'avoir
non,
Hazel?
Pas du tout. Moi, ma fille, elle est arrivée dans ma vie avec un immense plaisir, mais je n'avais pas besoin, entre guillemets, d'elle dans ma vie. Ma vie était déjà suffisamment remplie, genre, de joie et de gens et
de projets.
De projets, enfin, voilà.
Ça t'a pas boosté?
Ça m'a pas boosté, c'est une continuité pour moi. C'est juste une continuité. Maintenant, si on me demande si je veux reprendre ma vie d'avant, non, clairement pas. Parce que ma vie d'avant n'a pas tant changé, en fait. Ma fille, elle est venue bousculer un peu tout ça parce qu'il faut s'organiser. Mais je reste, j'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai pas l'impression d'être une amie différente. Et puis, je l'inclus dans ce que je fais, Hazel. Tu vois, si je voyage, si je sors, Bon, évidemment, elle va pas me suivre en soirée jusqu'à 3 du matin.
Donc finalement, tu oublies d'être maman dans ces moments-là,
Ah ouais,
non?
complètement. C'est pas que j'oublie ma fille, mais on peut être une maman hyper épanouie et une femme super accomplie, tu vois. Mais la preuve en est, enfin, tu vois, je suis avec quelqu'un, je fais mes soirées, j'ai toujours mes réseaux sociaux, ma création de contenu, toujours les mêmes amis. Enfin,
Tu te sens deux personnalités vraiment différentes?
non, je pense que les deux personnalités vont ensemble. Il y a semaine 1, semaine 2, quoi. J'ai la semaine que j'appelle la semaine roue libre, où je me couche tard, je dors pas beaucoup, je fais des apéros à rallonge, et c'est ok, et c'est cool. Et là, je suis à nouveau genre une jeune fille, entre guillemets, une femme, une jeune fille enfin, de 36 ans, mais t'as compris, et c'est trop cool. Et puis, il y a la semaine avec Hazel, où je suis un peu plus calme, où effectivement, elle va rentrer à la maison avec sa nounou, après être allée au parc, je vais prendre le relais pour le dîner, par exemple, ou parfois même ressortir quand elle dort, faire un dîner, mais rentrer pas tard, me lever le matin, prendre un petit déj avec elle, la déposer à l'école. Enfin, maman, quoi.
Est-ce que ça te fait peur, par contre, d'avoir une vie plus réglée, bah avec un mec
Ouais.
qui est là tous les jours,
Ouais.
de plus avoir cette semaine A et cette semaine B,
Non, ça me
roue
fait pas
libre?
peur. Ce qui doit arriver arrivera. Je veux pas à tout prix un enfant, quoi. Tu vois, j'étais très très triste quand je me suis séparée de Mathieu et je lui disais, ce qui est chiant, c'est qu'on n'aura pas fait de petit frère ou petite sœur à Hazel. Et moi, qui suis issue d'une grande tribu, pour moi, c'est un peu difficile parce que j'ai peur qu'elle se sente seule à un moment. Et pour refaire le lien à ma mère, moi, je me souviens que pour avoir accompagné ma mère jusqu'à son dernier souffle, on était ensemble, mes frères et moi. On s'est pas lâchés. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, putain, si ça doit m'arriver un truc pareil, j'aimerais pas qu'Hazel soit seule à mon chevet. Tu vois?
Donc tu veux un autre enfant en soi.
Bah, initialement, c'est ce que je voulais. Et en fait, je me dis, mais je suis tellement bien dans ma vie. Ma fille va tellement bien. Et ma fille aura des cousins, des cousines, etc. Bah, si un enfant doit arriver, voilà, parce qu'avec mon mec, ça se passe hyper bien, qu'on fait notre vie ensemble et qu'on en a un, c'est merveilleux. Si ça doit pas arriver, parce que je sais pas, on se sépare ou que je sais pas, je peux plus en avoir, enfin, eh bah, tant pis. C'est pas grave.
L'important, c'est d'avoir le choix.
Exactement.
Kenza, quand on regarde tes stories, on sait que tu fais beaucoup de sport.
Ouais.
Est-ce que tu as fait beaucoup de sport aussi quand tu as eu ta grossesse, déjà pendant ta période de grossesse et aussi après bébé?
J'ai toujours été sportive, mais c'est vrai que bah, étant enceinte, j'en ai fait un peu moins, d'autant plus qu'on était en confinement, donc il fallait que je fasse gaffe, en gros. Donc je me suis pas butée au sport en étant enceinte, mais d'ailleurs j'ai pris presque 20 kilos, hein, j'ai fait que bouffer. C'était le confinement, quoi, tu vois. Mais j'ai perdu très vite les 10 premiers kilos de grossesse. J'ai allaité, donc c'était assez facile. Et après, il m'en restait 8 un peu laborieux à perdre. Je me suis vraiment remise au sport 1 an et 3 mois après avoir accouché. Voilà,
Et
là où
t'es dure
vraiment.
avec toi ou pas dans ces cas-là?
Là, je l'ai été. Au bout d'1 an et 3 mois, ouais, parce que je me sentais le mental pour. En fait, dès que j'ai accouché, j'ai fait ma rééduque du périnée. Et du coup, donc très vite, je me suis remise au sport à la hauteur de 2 fois par semaine, mais tranquille, avec un coach. C'était plus voilà pour me remettre dans le bain, etc. Et mon mental ne suivait pas, j'étais encore fatiguée. Je suis arrivée à Dubaï. Voilà, je me sentais un peu plus conquérante, un peu plus téméraire. Et là, la petite avait 1 an, 3 mois, elle marchait. Je l'ai mise à la crèche, j'étais plus dispo dans ma tête. Là, j'ai été dure avec moi. Là, je me suis envoyée 3 séances par semaine avec une coach vraiment qui m'a fait bosser. Et ensuite, j'ai repris le relais toute seule. Voilà.
Et aujourd'hui, tu fais 3 séances encore par semaine?
À l'époque, j'en faisais 5 à 6 par semaine. Du coup, quand Mathieu est parti,
Ouais.
notamment parce que j'avais plus de temps pour moi seule, et en revenant à Paris, bah, je suis un peu frustrée maintenant parce que j'arrive pas à en faire autant.
Mais tu t'accroches.
Ouais,
Le
parce que
sport
j'adore
fait
ça.
partie de ta vie.
Ouais, vraiment, j'aime ça. J'adore ça, mais je fais plus 5 à 6 séances par semaine. Là, j'en fais 3 minimum, quoi.
Bon, pour finir, question ultime que j'aime poser à la fin de ce podcast. Une grossesse sur le papier, c'est 280 jours. Tu dirais qu'il t'a fallu combien de jours pour te sentir maman?
Ah, mais bien plus. Bien plus que 280 jours. Hein. Alors, moi, je t'explique qu'on m'a posé ma fille sur le ventre le jour où j'ai accouché, je ne savais même pas quoi en faire. Je ne pleurais pas, j'étais là et j'ai dit au docteur, bah, je fais quoi? Non, moi, je ne pense pas qu'on est mère, on le devient. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et pourtant, je pensais être hyper à l'aise et non.
Donc plus, combien de jours?
Non, mais très vite, je suis devenue maman, tu as l'instinct maternel, tu as une explosion d'amour, tu as un truc tellement animal, tu vois. C'est vraiment genre, tu t'apprivoises très vite, mais.
On te laisse 10 jours alors.
Non, même pas moins, moins.
Moins?
Ça arrivait très vite quand j'étais encore à la maternité. Mais
Alors
ma pro.
283.
Très bien, je prends. Ouais,
Ok.
283 jours.
Ok. Merci beaucoup, Kenza. Merci
Merci,
d'être
Carole.
venue te confier. C'était un plaisir de t'avoir et
Merci.
j'espère que de l'autre côté, vous avez aussi aimé cette conversation.
Merci d'avoir écouté Mode Parent Actif.
Cultiver, le podcast cofinancé par les produits laitiers et l'Union européenne, signé Chérie FM. Ensemble, nous avons une mission, lutter contre la sédentarité. Et pour cela, on vous raconte des histoires de parentalité qui bougent, mais pas que. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, ce serait quand même dommage de rater un épisode. Et si vous aimez ce podcast, allez, laissez-nous un petit commentaire, des étoiles, ça nous donnera un petit boost d'énergie pour la suite. Mode parent activé est disponible sur le site de Chérie FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors, à très vite !